Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Stéphane Carpentier. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Ravi de vous ouvrir les portes de RTL Soir. Deux heures d'infos en direct pour tout savoir et tout comprendre. Comprendre ce soir comment le transport aérien va-t-il pouvoir se relever de la crise sanitaire. Airbus dans le rouge, Boeing pire que ça, Air France KLM en chute libre, des milliards d'euros de pertes, des chiffres qui donnent le tournis. La pandémie représente le plus gros choc que le secteur ait jamais vécu. Menace de faillite et de catastrophe sociale malgré l'aide public. Une certitude, le bout du tunnel, ça n'est pas pour tout de suite et la filière en sortira méconnaissable. État des lieux, donc, dans un instant dans RTL Soir et décryptage complet à 18h15 avec notre invité Xavier Tittelmann, ancien aviateur militaire et consultant en aéronautique. Espérons quand même tout à l'heure quelques mots optimistes. Soyez tous les bienvenus. RTL Soir, le coup d'envoi avec Amandine Bégaud, les grands titres, le journal. Bonsoir Amandine.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Et à la une ce soir, cette piste qui ressurgit, celle de l'auto-confinement des plus fragiles. Ce serait, si l'on en croit plusieurs membres du Conseil scientifique, la seule solution pour éviter un nouveau confinement général. Dans ce journal également, cette disparition inquiétante à Rennes. Une mère de famille n'a plus donné signe de vie depuis 8 jours. Et puis on vous emmènera aussi à Toulouse, où l'on attend l'atterrissage sur Mars du robot Persévérance. C'est prévu pour ce soir, 21h43.
Et c'est bien précis, évidemment. D'abord, la météo avec Peggy Broche. Bonsoir à vous.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous.
Moins de pluie, Peggy.
Oui, uniquement en Bretagne, près de la Méditerranée. Demain, ça va durer toute la journée. Ça restera bien couvert avec du vent. Quelques gouttes également, mais pas grand-chose le matin au sud de l'Alsace. L'après-midi sur le Cotentin. Ailleurs, un temps sec, beaucoup de grisailles dans la matinée. Mais une fois dissipé, le soleil va s'imposer sur une large moitié sud du pays. Ce sera plus nuageux au nord de la Loire. Le tout sous des températures encore très douces, pas de gelée le matin et des maximales comprises entre 10 et 21 degrés.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Et c'est donc l'information de cette fin de journée. Et si les plus âgés s'auto-confinaient ? L'idée, vous vous en souvenez sans doute, avait été lancée il y a plusieurs mois, puis balayée par le gouvernement. Et bien voilà qu'elle fait ce soir sa réapparition. Bonsoir Agathe Landé.
Bonsoir.
Dans un article publié dans la revue The Lancet, 5 membres du conseil scientifique, dont son président, assurent que c'est désormais la seule solution.
Oui, et pour parvenir à cette conclusion, ils rappellent plusieurs constats. D'abord que le confinement a des conséquences désastreuses sur l'économie. Ensuite, que l'état psychique de la population est très inquiétant. Reconfiner empirerait encore les choses. Il n'est donc plus possible, dit le Conseil scientifique, d'utiliser cette succession de confinements généralisés comme réponse principale à la pandémie. Il faut en finir, je cite, avec cette approche basée sur la peur. Il souligne aussi que l'apparition des variants, notamment sud-africains et brésiliens, ont changé la donne. Les vaccins semblent moins efficaces sur ces mutations et donc la perspective s'éloigne de pouvoir accéder rapidement à l'immunité collective. Face à ces constats alarmistes, 5 membres du Conseil scientifique proposent donc au gouvernement de mettre en place un nouveau contrat social. Son principe est simple. D'un côté, les jeunes générations. Elles continueront d'adopter les gestes barrières, porter des masques, respecter la distanciation physique, mais elles n'auront plus à rester isolées chez elles. De l'autre, les personnes âgées, on ne sait pas encore à partir de quel âge. Non seulement ils continueraient à appliquer les gestes barrières, mais en plus, il faudrait qu'ils acceptent d'autres restrictions qui ne s'appliqueraient donc qu'à eux, notamment l'autoconfinement. Ce contrat social permettrait, dit le Conseil scientifique, de protéger nos aînés et de ne plus utiliser le confinement qu'en tout dernier recours.
Agathe Landé du service santé de RTL et ses recommandations seront sans doute commentées ce soir par Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui tient en ce moment même une nouvelle conférence de presse. L'heure, dit-il, n'est pas au relâchement. Sachez par ailleurs que la réunion qui avait lieu au ministère de la Culture, elle, est terminée. Roselyne Bachelot avait donné rendez-vous au patron des grands festivals. Un premier cadre a été fixé, pas plus de 5000 spectateurs en extérieur et assis, des règles bien sûr qui sont susceptibles d'évoluer selon la situation sanitaire d'ici cet été. Sachez que le patron des Vieilles Charrues, Jérôme Tréorel, elle sera d'ailleurs demain l'invité d'Yves Calvi sur RTL, ce sera à 7h15.
Autre secteur très lourdement touché, Amandine, c'est le secteur aérien.
Avec une nouvelle preuve, s'il en fallait une, ces très mauvais chiffres d'Air France KLM. Ils ont été publiés aujourd'hui. Le groupe a perdu l'an dernier plus de 7 milliards d'euros et le chiffre d'affaires est en chute libre, moins 59%, c'est du jamais vu. Les syndicats espèrent toutefois que le pire est passé. Écoutez Guillaume Schmitt, c'est le vice-président du SNCF. SNPL, le principal syndicat de pilotes chez Air France.
Ces chiffres sont effectivement hors du commun, mais quelque part, ces pertes étaient attendues et n'ont pas surpris ni les employés de l'entreprise, ni les investisseurs. Il y a des raisons d'espérer, le vaccin arrive, on sait que le public et nos clients sont très sensibles à tout signal positif. On l'avait vu à Noël avec les réservations qui avaient bondi d'un coup. Donc on est relativement optimiste, puisque au premier signal, nous savons que les clients ont envie de voyager et reviendront dans les avions. Donc nous espérons faire une saison d'été qui soit comparable à celle de l'année dernière, voire meilleure. Et là, on sera à nouveau sur une pente positive.
Le vice-président du SNPL au micro RTL, Déric Vanier, dans le rouge également, Airbus, qui affiche une perte nette d'1,1 milliard d'euros en 2020. Alors le secteur peut-il vraiment remonter la pente? On en parlera à 18h15 avec votre invité Stéphane-Xavier Tittelmann, spécialiste aéronautique.
Dans le même temps, d'autres essaient de tirer profit de cette crise. La ville d'Alès, par exemple.
Et oui, elle a lancé une grande campagne de pub dans le métro parisien. La ville qui propose un an de loyer à tous ceux qui viendraient s'y installer grâce au plat.
Pour les usagers du métro parisien, difficile de passer à côté de la campagne publicitaire de la ville d'Alès. Tania s'attarde, interloquée.
C'est dans l'affiche.
Qu'est-ce que vous voyez écrit dessus?
Alès sourit aux audacieux. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est Alès.
C'est une ville dans le Gard, donc du côté de Montpellier. En fait, la ville vous met au défi de quitter Paris.
Alors moi, j'aime beaucoup Paris. Donc là, non, je dirais non.
Et ce n'est pas gagné non plus, du côté de Marine.
En ce moment, on va dire qu'on manque un peu d'audace. Non, je crois que c'est clair.
Vous ne bougeriez pas à Alès?
C'est pas prévu, non. Non, non. Un an de loyer offert. Ah oui, quand même, ça laisse songeur.
Pour attirer les Parisiens, la ville a lancé un concours. Les futurs entrepreneurs ont encore quelques jours pour présenter leur dossier. Christophe Rivinck est le président d'Alès Agglomération.
Ce concours est le prétexte aussi à communiquer. L'avantage pour un Parisien, c'est une qualité d'environnement protégée, un bon air à respirer et surtout beaucoup moins de temps dans les déplacements et peut-être des logements aussi un peu plus grands. Ici, pour les mêmes prix, vous avez des logements 2, 3, 4 fois plus grands. C'est aussi un élément de qualité de vie essentiel. Alès, vous avez tout.
Ils ont déjà reçu une trentaine de dossiers, preuve pour le président de l'agglomération que les Parisiens veulent une autre vie, même à 4 heures de train de Paris.
Reportage signé Grâce Le Plat pour RTL. Dans l'actualité également ce soir, ce tollé après les propos de Frédéric Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur, a demandé au CNRS une étude sur l'islamo-gauchisme dans les universités. Alors le terme n'est pas nouveau, on l'entend régulièrement à gauche comme à droite.
Il y a des courants islamo-gauchistes très puissants dans les secteurs de l'enseignement supérieur.
Je suis pour Charlie Hebdo et je suis contre l'islamo-gauchisme.
Je mets de côté la France insoumise, il y a de la complaisance, il y a de l'ambiguïté en tout état de cause.
De l'islamo-gauchisme ?
Vous aurez reconnu Jean-Michel Blanquer, Bruno Retailleau ou encore Manuel Valls. Bonsoir Marie Mollet.
Bonsoir.
On a décidé de faire un peu de pédagogie ce soir. Que veut dire cette expression et surtout, qu'est-ce qui se cache derrière?
Eh bien, c'est tout le problème. Parce que d'après les chercheurs qui sont directement mis en cause, cette expression ne veut rien dire du tout. Elle ne correspond à aucune réalité scientifique, écrit le CNRS. C'est juste un slogan politique. Autrement dit, ce serait un concept flou, voire fourre-tout, qui servirait d'abord d'arme rhétorique pour disqualifier un adversaire. La preuve, c'est que ce concept est désormais repris et utilisé par une large partie du spectre politique, et il y a presque autant de définitions que de personnes qui en font usage. Par exemple, pour Manuel Valls, c'est l'alliance directe ou indirecte entre une partie de la gauche et l'islam politique. Pour Valérie Pécresse, ce sont ceux à gauche qui nient le danger que représente l'islam. Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer lui décrit le concept en des termes très vagues. Cette idéologie, ces courants-là, ce type de choses, en fait ce sera l'une des grandes difficultés de Frédéric Vidal, définir l'islamo-gauchisme avant de faire la chasse aux universités qui s'en rendraient coupables.
Décryptage signé Marie Mollet du service politique d'RTL.
18h08 en ce jeudi soir, vous restez bien là. Amandine Bégaud revient pour toute l'actualité dans un instant avec une histoire à peine croyable. Une pianiste obligée de se faire passer pour un homme pour réussir. On vous raconte après ça.
RTL Soir. RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Et Amandine Bégaud, la suite du journal, une histoire hallucinante dans le sud de l'Angleterre.
L'histoire d'une pianiste qui, pour réussir, s'est faite passer pour un homme. Ça paraît fou en 2021 et pourtant, c'est une histoire vraie, Marie Billon.
Cette air s'appelle Black Sea. C'est un extrait de l'album Dying Earth qui sort à la fin du mois, l'album d'Arthur Parker. Sauf qu'Arthur Parker s'appelle en réalité Annabelle Bennett. C'est une Anglaise de 50 ans qui a commencé à écrire sa propre musique il y a environ 9 ans après le décès de son père, qui s'appelait Tom Arthur Parker. Il travaillait dans l'industrie et avait prévenu sa fille de la misogynie du milieu, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il ait raison au point qu'elle doive emprunter son nom pour se faire connaître. Pendant plusieurs années, elle a envoyé ses compositions à des radios, dont la BBC, mais à chaque fois fois, elle était rejetée ou ignorée. Il y a 3 ans, elle a alors décidé de renvoyer les mêmes morceaux sous un nom d'homme, Arthur Parker donc, et de suite, dit-elle, sa musique a été remarquée et diffusée. Pendant longtemps, elle n'a communiqué que par email avec les producteurs pour ne pas révéler son identité, et puis elle a finalement eu l'occasion de se présenter à une journaliste de la BBC qui depuis l'a soutenue dans sa carrière, précise-t-elle. Malgré tout, Annabelle a décidé de garder son nom masculin pour sortir son album. Je pense qu'il se vendra mieux si les gens pensent qu'il est fait par un homme, dit-elle.
Histoire étonnante, on vous l'avait dit, et c'est signé Marie Billon, la correspondante d'RTL à Londres. On part à présent pour Rennes avec cette disparition inquiétante. Une mère de famille qui n'a plus donné signe de vie depuis 8 jours. Bonsoir Guillaume Sies.
Bonsoir.
Les gendarmes prennent l'affaire très au sérieux.
Oui, à tel point que mardi, ils ont organisé une énorme battue. 300 personnes, des chiens renifleurs, des plongeurs, un hélicoptère. Mais rien, aucune trace. Magali Blandin, éducatrice spécialisée, mère de 4 enfants, est aperçue pour la dernière fois mercredi 10 février à Montfort-sur-Meux, un village à l'ouest de Rennes où elle avait aménagé en fin d'année dernière après avoir quitté le père de ses enfants. Pour le colonel Sébastien Jodon, commandant du groupement de gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, une course contre la montre est engagée.
En matière judiciaire, le temps perdu ne se rattrape pas. Donc d'expérience, il est indispensable de produire un effort important le plus rapidement possible pour ne pas perdre d'éléments de preuve. À ce stade, on n'exclut aucune piste. On a à la fois la piste d'un départ volontaire, la piste éventuelle aussi défavorable d'un suicide, on peut avoir un accident et naturellement on a aussi la piste malveillante.
Et le dernier indice concernant la disparition de Magali Blandin remonte à jeudi dernier. Ce jour-là, son téléphone portable s'est arrêté de borner non loin de son domicile.
Et Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Et puis dans l'affaire Maëlys, fin de l'instruction. Le parquet et les avocats ont maintenant 1 mois pour faire d'éventuelles observations. La juge en charge de cette enquête sur la disparition de cette fillette, c'était en Isère, devrait ensuite renvoyer devant les assises Nordal Le Landais, mise en examen pour meurtre dans ce dossier.
Et puis Amandine, tous les amateurs d'astronomie vont surveiller ça de près ce soir, l'atterrissage sur Mars de Perseverance.
Oui, Perseverance, c'est le robot de la NASA. Atterrissage prévu aux alentours de 21h43. Et à Toulouse, à la Cité de l'Espace, on est déjà sur le pied de guerre. Il faut dire, Patrick Hisson, qu'ils sont nombreux à avoir participé à la conception de ce programme. À Supercam notamment, c'est la caméra laser embarquée à bord de Perseverance.
Oui, et vous l'imaginez, tous les scientifiques ici retiennent leur souffle ce soir à quelques heures de l'atterrissage du rover. C'est le cas de Christophe Donny.
La pression monte petit à petit, bien sûr là aujourd'hui c'est le maximum avec cette phase de descente qui est à très haut risque puisque tout est fait en automatique, mais on est confiant parce que ça a déjà été fait une fois, on a vu que ça avait bien fonctionné.
Ce scientifique fait partie au CNES des concepteurs de Supercam, cette caméra embarquée sur Perseverance, un système également doté d'un micro capable pour la première fois d'enregistrer l'environnement autour du rover, ou encore les tirs de laser de Supercam. Ce son est enregistré en version martienne, l'explication du chercheur Baptiste Schied.
Tous les sons sur Mars, alors déjà, sont beaucoup plus faibles en volume, il y a moins d'atmosphère. Mais en plus de ça, ils sont moins aigus, puisque tous les sons aigus sont absorbés par le dioxyde de carbone qui compose l'atmosphère de Mars.
Quant à l'objectif premier de la mission, il nous est rappelé par Christophe Donny.
Perseverance, là, va devoir chercher des traces de vie, donc ce qu'on appelle des biosignatures, des traces qu'aurait pu produire cette vie bactérienne il y a des milliards d'années et qui serait encore disponible à la surface de Mars.
Mais il faudra probablement attendre 2030 avec le retour des échantillons sur Terre pour vraiment savoir si la vie a existé sur la planète Mars.
Patrick Hisson à la Cité de l'Espace de Toulouse pour RTL.
La bonne nouvelle du jour.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Avec une nouvelle médaille pour les Français au championnat du monde de biathlon, de l'or cette fois, Julia Simon et Antonin Guigonin terminent premier du relais mixte simple.
C'est la grande satisfaction, forcément. Ça fait plaisir. C'est une belle revanche de prise sur le début de mes championnats, pour ma part. Et une grande satisfaction de partager ça avec Anto. C'est une grande fierté. Non, c'est vrai que c'est génial. C'est pour ça qu'on s'entraîne, c'est vivre ses émotions. C'est vraiment quelque chose de fort. Et c'est ce dont on se retiendra à la fin de notre carrière. Ce sera de ces bons moments. C'est vraiment génial.
Je saute pas au plafond, je pleure pas de joie, mais je sais que c'est quelque chose d'énorme. Je m'entraîne toute l'année pour vivre d'abord ce sport pleinement. Et quand ça fonctionne comme ça, en équipe en plus, c'est vraiment là que je comprends aussi pourquoi j'ai choisi cette vie, ce métier et ce sport.
Julia Simon, Antonin Guy Gonin, champion du monde de biathlon au relais mixte simple, au micro RTL d'Isabelle Langer. C'est quand même la 6e médaille française depuis le début de cette compétition.
Amandine Bégaud qui nous quitte avec la Marseillaise.
Pas
la
mal,
classe,
hein.
Championne du monde. Vous revenez tout à l'heure, 18h30 pour l'actualité, bien sûr. Vous restez là, s'il vous plaît, RTL Soir, la suite. C'est notre première invitée pour comprendre le désastre du secteur aérien, victime XXL de la pandémie. Xavier Tittelmann décrypte pour nous dans un instant les chiffres catastrophiques des constructeurs et des compagnies aériennes, alors qu'on ne voit pas du tout le bout du tunnel. A tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
À 18h18 dans RTL Soir, nous avions besoin d'un spécialiste de l'aéronautique pour nous pencher ce soir sur un secteur dans le rouge. Air France KLM, Airbus, Boeing, victimes de la crise sanitaire. Xavier Tittelmann est donc notre invité. Bonsoir et merci d'être connecté.
Bonsoir et merci à vous.
Ce transport aérien qui est laminé par la vague Covid, Xavier Tittelmann, plus de 7 milliards d'euros de pertes pour Air France KLM. Airbus, c'est une production en baisse de 40%, une perte d'1,1 milliard d'euros. C'est 10 fois pire pour Boeing. C'est très grave, docteur, sur une échelle de 1 à 10.
Ah bah, c'est tout simplement la pire crise que le secteur ait connue et on n'en voit pas la fin. Dans le sens où aujourd'hui on est toujours en train d'essayer de s'adapter à cette baisse. On sait évidemment que ça va prendre des années pour revenir au niveau de trafic, mais les efforts d'économie qui ont été réalisés permettront certainement de revenir à un niveau d'équilibre, en tout cas d'arrêter de perdre de l'argent, peut-être un peu plus tôt, 2023-2024, mais on part vraiment sur une crise qui est très longue, très durable et qui touche le secteur dans son ensemble.
Ouais, ce sont des chiffres qui donnent le vertige, le tournis, disait même ce matin le directeur financier d'Air France KLM. Ça s'explique par quoi ? Par la chute du trafic aérien ?
Évidemment, déjà, on n'a plus le droit de prendre l'avion, on n'a plus le droit de changer de frontière, on n'a plus le droit de traverser et d'aller de l'autre côté de l'Atlantique. Donc les vols les plus rentables pour les grosses compagnies aériennes, comme Air France ou Lufthansa, ont disparu. Il ne reste que le trafic domestique sur lequel elles étaient très peu rentables, sachant que quasiment la moitié du trafic national, donc les gens qui vont à Paris, ne vont pas à Paris, font une escale plus lointaine. Donc forcément, quand vous n'avez plus le droit d'aller à New York, vous n'avez plus de raison de faire un Nice-Paris. Et donc on a un trafic national qui s'effondre et trafic international qui était la vache à lait, qui disparaît également.
Oui, il y a une chute de 66% de la fréquentation en 2020, hein, ce qui est considérable à l'échelle planétaire.
En chiffre d'affaires, c'est encore pire.
C'est encore pire en chiffre d'affaires. Les grandes perdantes de ça, c'est à l'image d'Air France KLM, sont les compagnies aériennes, des compagnies qui laissent même leurs avions au sol. Elles vont pas toutes se relever de cette histoire-ci.
Très clairement, toutes celles qui ne sont pas aidées auraient déjà fait faillite. Donc on a des compagnies dans certains pays, on va penser par exemple à l'île Maurice, qui ne peuvent pas soutenir économiquement leur compagnie nationale. Et donc on a d'autres pays où on est dans la catastrophe inverse, et là on a une nationalisation comme exemple en Italie. Et les compagnies intermédiaires qui aujourd'hui avaient quand même les reins solides, qui avaient des perspectives, qui étaient en train de s'améliorer, Air France, Lufthansa, et ben malheureusement elles peuvent pas survivre toutes seules. Donc on déverse des milliards d'euros, évidemment ce sont des prêts, ils vont être remboursés avec des intérêts, mais ça va prendre des années. Et face à elles, il y a la menace des low cost, parce que les compagnies low cost, elles sont arrivées dans la crise très très riches, et elles vont l'être encore plus dans quelques années, puisqu'elles n'ont pas fait d'emprunt. Elles n'auront pas besoin de rembourser, elles n'auront pas besoin d'augmenter leurs tarifs, donc elles vont encore gagner en compétitivité. Et c'est ça la grande crainte aujourd'hui pour les compagnies qu'on appelle les legacies, les traditionnelles.
Les traditionnelles, justement, en termes de postes supprimés, ça va être une catastrophe sociale, comme je le disais tout à l'heure.
Alors, on est déjà autour de 20-25% de réduction en nombre d'emplois, mais c'est pas les seuls postes d'économie, évidemment. Il y a une rationalisation des marques, il y a des marques qui disparaissent, Hop, June, on en avait déjà parlé. Il y a des avions qui disparaissent du ciel, tous les avions qui ont 4 réacteurs, la 380 par exemple, il a disparu dans la quasi-totalité des flottes mondiales. Donc il y a beaucoup d'efforts de rationalisation pour baisser les coûts. L'objectif, évidemment, c'est pas de totalement détruire. Aux États-Unis, au Canada, on a jusqu'à 40-50% des employés de certaines entreprises qui sont licenciés, avec un chômage qui est à $800 par mois. Donc vraiment des conditions, on peut pas se plaindre en Europe, mais c'est vrai que la situation est excessivement compliquée pour tous les salariés. Et puis tout le monde s'inquiète, parce que ceux qui ont aujourd'hui, qui sortent de l'école, qui ont leur qualification, les jeunes pilotes, ils savent pas. 2023, 2025, 2028, c'est très très long pour espérer retrouver un poste.
Mmh. Xavier Tittelmann, quid des sous-traitants ? Parce qu'il y en a des entreprises qui dépendent de tout ça et des emplois à la quai qui dépendent des constructeurs et des compagnies aériennes. Comment ça va se passer pour ces sous-traitants ?
Alors, malheureusement pour eux, évidemment, ils sont fragiles parce qu'ils sont petits, qu'ils sont relativement invisibles. Et puis, quand il y a un plan social qui licencie 10, 15 personnes, ça va pas forcément à la télé. Donc, ils ont pas le soutien médiatique dont ils auraient besoin. Alors qu'à contrario, les très grandes entreprises, ça se voit. Donc, on arrive quand même à sauver plus d'emplois. Néanmoins, on peut espérer que l'industrie se relève un petit peu plus vite que les compagnies aériennes européennes, puisque l'industrie, elle n'est pas limitée à l'Europe. On sait qu'en Europe, le trafic va revenir probablement à la fin de la décennie, 2026-2028. Par contre, en Asie, c'est même 2021, on sait que la Chine a déjà dépassé son niveau de trafic de 2019. Donc, en moyenne mondiale, on sait qu'Airbus va recommencer à livrer des avions d'une manière normale en 2023-2024, donc beaucoup plus vite. Et les petites qui sont derrière, eh ben, la grande crainte, c'est qu'elles ne tiennent pas jusqu'à 2023-2024 et qu'on perde des pépites, des compétences, parce qu'on a vraiment un savoir-faire, c'est 200 000 emplois qui dépendent directement de l'industrie aéronautique. Il faut absolument les sauver.
Vous nous citez là ce soir des années très très lointaines, j'entends 2026, 27, 28. Est-ce qu'à court terme, on peut espérer quand même une embellie, un mieux au deuxième, troisième trimestre de cette année 2021?
Bien sûr. Alors, si jamais on imagine qu'il n'y a absolument plus aucune barrière sanitaire à la fin de cet été, ce qui est objectif aujourd'hui de l'Union européenne, on pourrait penser qu'on reviendrait à 10, 15, 20% en dessous du trafic qu'on avait avant la crise. Néanmoins, le secteur est quand même très fortement appauvri. Et même si on revenait à un niveau qui est acceptable, par exemple 20% en dessous, il y a des prêts à rembourser. Aujourd'hui, les prêts qu'a contracté par exemple le groupe Air France, simplement en remboursant le capital, même pas les intérêts, c'est supérieur au résultat d'exploitation de la compagnie en 2019. Donc même si on revenait à un trafic normal, la compagnie resterait dans le rouge pendant longtemps.
Quoi qu'il se passe, Xavier Tittelmann, le monde de l'aéronautique ne sera plus jamais le même. Il va falloir le repenser.
Il y a des évolutions, évidemment. On a un certain nombre de personnes qui vont un petit peu moins voyager. On pense en particulier aux professionnels qui ont d'autres façons également de se déplacer ou de travailler, mais ce sera 6-10% de baisse pour ces professionnels. Par contre, vous avez d'autres composantes du trafic. Par exemple, les gens qui ont de la famille de l'autre côté de la Méditerranée ou à l'autre bout de l'Europe, ils vont continuer à voyager, ce qu'on appelle les visit friend and relative. Et les touristes, on voit qu'ils sont très nombreux, dès qu'ils en ont la possibilité, ils arrivent en masse, ils reviennent très très rapidement, et en particulier les jeunes, même si c'est ceux qui se plaignent le plus de la pollution, on voit que ce sont les premiers qui voudraient reprendre l'avion dans les études, donc on est quand même assez positif sur cet aspect-là, mais probablement 10, 15, 20% de chute, quand il n'y aura plus de barrières sanitaires, c'est évidemment très difficile à supporter pour le secteur.
Et pour les aéroports, comment ça va se passer d'après vous, s'il fallait se projeter un petit peu? On a entendu la semaine dernière qu'il n'y aurait pas de T4, par exemple à Roissy-Charles-de-Gaulle, est-ce qu'il va falloir se modifier aussi dans les structures?
Alors, il y a 200 aéroports en Europe qui sont à deux doigts de la faillite. Donc aujourd'hui, il faut les supporter, il faut les soutenir, parce que leurs coûts fixes sont très importants et ils ne se réduisent pas aussi facilement que les compagnies aériennes. Un avion, il arrête de voler, il paye plus de carburant. Malheureusement, un aéroport, c'est pas la même chose. Il faut continuer à entretenir les bâtiments, c'est très compliqué. Et donc, les aéroports, pour l'instant, on repousse simplement cette croissance. Le terminal 4, il est nécessaire dans un monde dans lequel on va avoir besoin de plus en plus d'aviation, parce que ce besoin, il va rester présent. On sait très bien que l'Asie, le monde entier va continuer à progresser. Il y aura toujours la France en première destination touristique mondiale. Donc il y aura besoin du T4, mais on n'aura pas besoin du terminal 4 à Roissy en 2028. Peut-être que ce sera en 2035, peut-être en 2040. Et il y a aussi un avantage à repousser la construction du terminal 4, c'est de pouvoir mieux le réfléchir en intégrant les nouveautés, les innovations qui vont arriver, notamment les carburants tels l'hydrogène qui sont prévus pour 2035 et les carburants électriques. Le terminal 4 n'était pas prévu pour ça, donc finalement on recule pour mieux sauter un petit peu plus tard avec des avions plus efficaces et des compagnies aériennes et des aéroports justement qui seront pensés pour cette modernité.
Je reviens à un point important que vous souleviez tout à l'heure, Xavier Tittelmann, vous qui êtes un spécialiste de l'aéronautique, sont les aides. Le secteur aujourd'hui ne peut pas s'en sortir sans toutes les aides et les milliards qui sont injectés?
Non. Alors très clairement, vous auriez des compagnies, et même Lufthansa, même Air France, qui seraient déjà à court de liquidité, qui ne seraient plus capables d'acheter leur carburant, qui ne seraient plus capables de payer leur salaire ou de rembourser leurs avions. Donc elles ne peuvent pas s'en sortir. Et certaines compagnies, d'ailleurs comme Lufthansa, sont dans une situation encore plus critique qu'Air France, puisqu'elles n'ont même pas de marché national qui est le plus résilient. Mmh. Air France a de la chance, elle a beaucoup de gens en France, c'est un grand pays, on a les départements d'outre-mer, donc on continue à pouvoir assurer un certain nombre de trafics. Mais si les compagnies disparaissaient aujourd'hui, il y a tellement de conséquences diplomatiques, sanitaires, logistiques pour acheminer les vaccins partout dans le monde, on ne peut pas se permettre de les voir disparaître. En France, il y a plus de 1,1 million d'emplois qui dépendent directement ou indirectement du secteur aérien. Et c'est pour ça aussi que les compagnies aériennes sont soutenues dans tous les cas par les gouvernements. C'est parce qu'on sait très bien qu'elles sont indispensables et qu'on ne pourra pas se passer de compagnies aériennes quand la reprise sera là.
Et on va ouvrir les vannes comme ça indéfiniment, c'est-à-dire aider, aider et aider encore ?
Non, il y a forcément un moment où ça va s'arrêter, mais aussi parce que les efforts sont faits. À partir du moment où la compagnie aérienne aura fait les efforts pour baisser ses coûts, et ça n'a pas pu être fait en un an, mais forcément ça prend un ou deux ans le temps que les gens partent à la retraite. Donc peut-être qu'en 2022-2023, ça va s'arrêter, on sera à un niveau d'équilibre qui sera bas, avec 20-30% de salariés en moins, mais à ce niveau-là, il n'y aura plus besoin d'apporter des aides. Et là, on passera au remboursement qui sera progressif, qui va prendre des années, avec les cotisations et tout le reste. En réalité, les États seront gagnants à long terme. Ça coûte cher tout de suite, mais la réalité, c'est que si on n'aide pas le secteur aérien, ça va coûter encore plus cher sur le long terme.
Merci beaucoup de nous avoir expliqué les choses ce soir, Xavier Tittelmann, consultant en aéronautique. C'était précieux de vous écouter sur la situation, ce secteur qui est plus que dans le rouge. Il est 18h28, vous restez bien là, c'est toute l'actualité qui arrive avec Amandine Bégaud. À tout de suite.
RTL Soir.
18h30.
RTL Soir. Avec Stéphane Carpentier.
L'essentiel de l'actualité avec vous, Amandine Bégaud.
Et la crise sanitaire avec Olivier Véran qui appelle ce soir chacun à poursuivre les efforts. L'heure, dit le ministre de la Santé, n'est pas au relâchement. Pas de nouvelles restrictions, mais un durcissement des règles pour les cas positifs.
Certaines études scientifiques évoquent la possibilité que les variants puissent être responsables d'une durée de contagiosité plus importante que celle du Covid-19 classique qui circulait jusqu'alors dans le pays. Sans attendre la confirmation, et dans la mesure où la part de variants dans les contaminations est devenue élevée, j'ai décidé que la durée de l'isolement de tous les patients dont le test diagnostique est positif passera à compter de lundi de 7 à 10 jours. Elle restera en revanche de 7 jours pour les cas contacts.
Dans le même temps, on reparle ce soir d'un autoconfinement des plus fragiles. Dans un article publié dans la revue The Lancet, 5 membres du conseil scientifique, dont son président, assurent que c'est désormais la seule solution pour éviter un reconfinement. Les patrons de festivals et la ministre de la Culture, eux, se sont mis d'accord ce soir sur un premier cadre. Les festivals cet été, s'ils ont lieu, ne pourront pas réunir plus de 5000 personnes et ce sera assis pour tout le monde. Et puis persévérance sur Mars, c'est l'événement, bien sûr, ce soir. Le robot de la NASA doit atterrir aux alentours de 21h40.
Merci Amandine. Et toute l'actualité, c'est tout simple. Vous allez directement sur l'appli RTL. La météo, Peggy. Demain, retour d'un temps sec presque partout.
Oui, il restera juste en fait quelques faibles pluies toute la journée sur la Bretagne et la Méditerranée, sous un ciel bien chargé. Et du vent, quelques gouttes également, mais juste le matin au nord de la Franche-Comté, Sud-Alsace. Mais pas grand-chose. Et puis les pluies vont gagner le Cotentin. L'après-midi, ailleurs, un temps sec avec beaucoup de grisailles le matin. Ces grisailles auront un peu de mal à se dissiper au nord de la Loire. Du coup, le ciel sera souvent nuageux, même s'il peut y avoir quelques éclaircies. Et au sud de la Loire, là, ce sera du beau soleil, sauf toujours près de la Méditerranée avec ses entrées maritimes. Et les températures, elles vont rester douces, sans geler. Les minimales seront comprises entre 4 et 10 degrés. Les maximales seront stationnaires de 10 à Lille à 21 à Biarritz, 20 à Bordeaux, 16 à Lyon et 13 à Paris.
Et on détaille tout ça, Météoscope avec vous, Peggy Broche. Ce sera 18h55 tout à l'heure. L'œil de Philippe Cavrivière, le jeudi, Philippe est en mode avion, en mode pause, il se repose. Mais pas question de se priver, alors on vous a préparé une version. Les meilleurs moments de ces dernières semaines, profitez.
J'étais chez Monop, avenue de l'Opéra, car malgré le succès et l'emballement médiatique autour de moi, je continue à faire mes courses.
Ouais.
Et j'ai croisé, c'est totalement vrai, Benjamin Griveaux au rayon lessive. Alors je l'ai reconnu au front et à la bosse, bien sûr, et je me suis dit... Il se tape les courses. Toi, mon cochon, tu payes encore l'affaire du ZZ Gate. Oh. Sa femme, un an après, elle a dû dire « T'as envoyé ton zizi ? Ben, tu vas me chercher ma lessive. Ouais. » Je pense qu'il en a pris pour 25 ans de monop minimum.
Et pourquoi votre femme, à vous, vous envoyez faire les courses?
Ah, mais ça, c'est la bonne question.
C'est ouais, la bonne question. Ma
notre président de la République, Emmanuel Macron, a le Covid. C'est une grosse actu. Et vous, vous faites votre chronique avec votre chat qu'on entend. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi?
Mais je vais vous dire la vérité, Thomas. On est le 17 septembre. Je suis là.
Décembre.
Et moi, je suis là depuis septembre. Ça fait 4 mois. J'ai toujours pas fait le buzz. Donc je me suis dit, on est en 2020. Si tu veux faire le buzz, il y a deux trucs qui marchent. Soit tu montes ton cul, soit tu fais des vidéos de chatons. Donc j'ai préféré, pour le bien-être de tous, prendre un chaton. Alors à la limite, je peux faire un combo et vous montrer le cul de mon chat.
Non.
Avec son consentement, bien sûr. Alors son cul, c'est le côté où ça, qui sent un tout petit peu plus mauvais. Parce que là, il a mangé du pâté.
Bon, Philippe, vous avez quand même un tout petit peu travaillé et vous allez donc nous parler de l'info principale du jour. Emmanuel Macron, positif au Covid.
Oui, BFM est en breaking news. Alors c'était la panique. Ils sont allés chercher Patrick Peloux en hélico. Il est en train d'opérer une mamie du col du fémur. Ils ont dit, on s'en fout, on met ma mère au frigo, on la finira la semaine prochaine. Je vous préviens, tout de suite, j'ai tenu cette chronique avec exigence depuis septembre. Oui. Avec Macron malade, il n'y aura aucune vanne facile sur Brigitte avec sa bûche toute seule dans la cuisine. Ou sur Mathieu Gallet qui serait qu'à contact. Oh, on restera digne jusqu'au bout, je ne ferai pas ça. Puis surtout, on va se calmer, BFM et CNews, c'est une petite grippette, c'est pas non plus JFK à Dallas. Hein. Et voyons le positif, François Mitterrand avait caché son cancer, Emmanuel Macron, lui, a assumé son cancer du nez qui coule.
Parlons des fêtes à venir, Philippe. Dans votre famille aussi, avec votre frère, vous vous êtes posé la question d'inviter ou pas les grands-parents.
Et c'est vraiment un dilemme, on a envie de les voir, et en même temps, on se dit qu'on leur fait courir un risque. Moi, j'ai beaucoup hésité à inviter ou pas ma grand-mère. J'ai appelé mon grand frère, car c'est une décision qu'on prend à deux. Il m'a tout de suite rassuré. Il m'a dit « Mamie est morte en 95. Elle ne le prendra pas mal si on ne l'invite pas. » Et c'est fou, je ne me rappelle jamais qu'elle est décédée. Je vais me le noter à quelque part parce que j'oublie tout le temps.
Ce matin, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, nous disait que le couvre-feu de 18h avait eu des résultats, et là je le cite, des résultats en demi-teinte.
Alors, demi-teinte, c'est du langage politique. En clair, ça a servi à zeber. Voilà. Alors, moi, je préférais qu'ils nous disent carrément, tu vois, le gouvernement nous dit, bon, on tente des trucs, mais on est paumé. Voilà. On est comme un gars du Vendée Club sans permis bateau avec les yeux bandés. Et on se dit, bon, un jour, sur un coup de bol, on va bien finir par s'encastrer dans un port, quoi. Vous avez vu l'allocution de ce matin? Moi, je regarde de plus en plus la dame en bas à droite qui fait pour les sourds-muets. Parce que avant, on s'en foutait, mais maintenant, on leur parle un peu, c'est gentil. En bas à droite, elle faisait de la natation ce matin. Elle était là, l'autre, il parlait, faisait dos crôlé, machin et tout. Elle a fait 2-3 longueurs, Monique. Hein. Dis donc, oui. À propos de natation et de ramer, j'aimerais qu'on réécoute notre Thomas Soto en séance d'aviron. C'était hier soir, face à Nathalie Saint-Cricq.
Ouais. Nathalie, juste un truc. Vous avez quand même pas mal d'expérience. Vous avez connu pas mal de gouvernements.
Sympa.
Non, mais ça va.
C'est délicat. Oh, voilà, c'est classe. Ah, je peux te dire qu'en finissant sa poire hier soir, Nathalie en avait gros sur la patate. Elle m'a dit, j'en ai connu des goujats et des trous du cul. Mais Soto, il a la médaille d'or.
Alors, l'autre sujet de la semaine, ce sont ces accusations d'agression sexuelle qui ont visé François Asselineau.
Ça n'arrête pas. Aujourd'hui, François Asselineau, hier Richard Berry, avant-hier Marilyn Manson. C'est une par jour. C'est comme un calendrier de l'Avent. Tu ouvres une petite fenêtre, hop, il y a un sgeg qui sort. Oh, c'est le calendrier de l'avance. Alors, je sais, il ne faut pas se fier aux apparences. Pas de délit de sale gueule. Dans le cas de Marilyn Manson, bon, on avait des soupçons quand même. Avec sa tête d'organisateur de messe satanique, on l'imagine mal faire un petit missionnaire à maman et manger un Activia avant d'aller se coucher. Alors que Vianney pourrait faire un génocide, le procureur lui demanderait un autographe et il ferait un selfie avec le jury. C'est injuste, la vie.
Ouais, que voulez-vous? Parlons des suites de l'affaire Duhamel. Cette affaire, quand même, a libéré la parole, notamment sur les réseaux sociaux.
Alors, ça prouve bien que lorsqu'on dit qu'on fait moins l'amour une fois qu'on a un enfant, c'est faux. En tout cas, chez les Duhamel.
Oh non.
Bah si. Bah, je fais attention à ce que je dis quand même, parce qu'après Finkielkraut, j'ai pas envie d'être le second intellectuel à être viré pour une sortie sur l'Instès. Nous autres, les philosophes intellectuels, on a chaud.
C'est dur.
On a chaud.
Vous allez faire quelque chose pour le pouvoir d'achat des étudiants, Philippe, ou pas?
Oui, alors je vais leur donner 130 millions d'euros. Car j'ai ici les numéros gagnants de la super cagnotte de l'euro million de demain.
Ah, vous êtes sûr que c'est les bons?
Non. Et c'est comme la politique du gouvernement. Il est possible que je tape à côté. Mais je me lance. Alors, demain, il faut jouer le 2,
oui.
Le 6,
oui.
Le 8,
oui.
Le 23,
oui.
Le 25 et oui. Les deux numéros étoiles. Le 2 et le 5.
Le 2, le 6, le 8, le 23, le 25.
C'est les numéros gagnants.
Le 2, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont le faire.
Je suis mal si je...
Moi, je vais les jouer.
C'est con. Alors, si je gagne, bien sûr, je vous dis pas à mardi parce que je vous aime beaucoup, mais j'aurai autre chose à foutre.
Évidemment. De toute façon, on va tous jouer les mêmes numéros, vous gagnerez pas grand-chose.
On ne gagnera pas 130, c'est con.
Pour diviser par 3-4, ça va.
Ouais, bah tous, il y en a quelques-uns qui écoutent, il y en a au moins 3-4 qui écoutent, j'espère.
J'espère.
Tiens, puisque vous parlez du gagnant de l'euro mignon, est-ce que, soyez honnête, soyez franc, est-ce que vous êtes envieux de cette personne?
Non, parce que moi, je suis pas argent. Et de toute façon, l'argent, ça sert à quoi? C'est pour avoir une voiture plus grosse, une maison plus grosse. Comment Thomas? Une femme moins grosse.
Oh, non,
bravo Thomas, c'est élégant ça. Nos auditrices apprécieront.
Il n'a pas de limite, ce Philippe Caprivière. Il sera de retour de vacances et en très grande forme, sans aucun doute, ce mardi prochain, aux côtés de Thomas Soto, qui lui aussi sera de retour de vacances. Tout le monde sera en très grande forme. Ce sera mardi dans RTL Soir.
RTL Soir. Avec Stéphane Carpentier.
À 18h39, en ce jeudi, c'est un documentaire diffusé ce soir sur France 3 qui nous intéresse dans RTL Soir, qui m'a franchement passionné. Diffusé en deuxième partie de soirée, baptisé « Ici, tout est loin ». Ce sont 52 bonnes minutes d'immersion dans un village de l'Allier. Des rencontres avec des ados qui se questionnent sur leur avenir. Un document produit par Mélissa Torio, qu'on connaît bien, qui est en ligne avec nous. Et je la remercie. Bonsoir Mélissa.
Bonsoir.
Réalisé par Jean-Thomas Sekaldi, qui est en studio en direct, et merci à vous d'être là, Jean-Thomas. Bonsoir. Vous avez filmé ces jeunes collégiens ou lycéens, des jeunes isolés qui sont suivis, et je me permettrai de dire même coachés par Salomé Berlioux, qui est là aussi. Bonsoir à
Bonsoir.
Vous.
Bonsoir.
J'aimerais qu'on commence avec vous, Salomé, parce que vous êtes une enfant du village. Le village, c'est Lurcy-Lévis, moins de 2000 habitants au centre de la France, et vous êtes à la tête d'une association Chemin d'Avenir qui accompagne ces jeunes. L'isolement, l'éloignement de tout ou presque, vous l'avez connu, vous, cette France rurale, parce que vous êtes une enfant de ce village, justement.
De ce village, absolument. J'ai grandi à 50 km près, d'ailleurs. C'est vraiment le centre de la France. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles Jean-Thomas Sekaldi a choisi aussi d'y faire ce documentaire. J'y ai passé donc mon adolescence, avec tout ce que ça a de formidable, de grandir à la campagne, de pouvoir avoir de l'espace, un lien de proximité avec les habitants du territoire, la forêt de Troncet, pas loin, pour aller s'y promener. Et puis avec un certain nombre d'angoisse, de tension, de défis à relever au moment des choix d'orientation. C'est ce sur quoi on travaille avec Chemin d'Avenir dont vous parliez. On est aujourd'hui une équipe de 20 personnes qui accompagne 1500 jeunes à travers toute la France, dans l'Allier, mais aussi dans les Vosges, dans la Nièvre, dans l'Ardèche. Et c'est ce que montre très bien le documentaire produit par Mélissa.
Oui, parce que la carte postale, elle est magnifique et vous la décrivez très bien. Le mais, c'est quoi? C'est à partir de la 4e, de la 3e, on se pose des questions sur la suite, c'est ça?
C'est ça. Et puis le titre du documentaire parle de lui-même. Ici, tout est loin. Ça n'est absolument pas misérabiliste de dire ça. C'est juste que concrètement, à Lurcy-Lévis, si vous voulez aller au lycée, vous allez devoir aller à 3/4 d'heure de chez vous. Donc ça peut vouloir dire aller à l'internat, ça a un coût. Ça peut vouloir dire ne pas oser le faire, ne pas avoir les frères et sœurs qui ont fait ce choix. Si vous avez envie de faire des études supérieures ou d'ailleurs d'être chef cuistot, de faire un BTS tourisme ou d'être diplomate, hôtesse de l'air, ça va supposer également de partir, de bouger. Et encore une fois, ça a un coût matériel, financier, psychologique pour les familles. Ça ne va pas de soi. Et ça pose vraiment pour ces jeunes la question du choix et d'être en mesure de faire ces choix.
Et c'est ce qu'on voit très longuement dans ce documentaire, évidemment. Mélissa Torio, ce qui vous a touché peut-être, c'est le fait qu'ils ont raison ou ils ont le droit d'y croire.
Oui, il y a plusieurs choses qui me touchent. D'abord parce que c'est une grande partie de nos jeunes dont on parle quand même très peu. On parle beaucoup des jeunes et des difficultés réelles et nombreuses dans nos banlieues, et je le fais aussi dans d'autres films. Et je trouve qu'ils ont d'ailleurs davantage de points communs avec nos jeunes ruraux qui sont beaucoup plus invisibles. C'était le titre du livre de Salomé Berliou qui nous a inspiré avec Jean-Thomas au départ d'ailleurs pour en faire un documentaire. Donc bien sûr, comme tous les films que je produis et qu'on accompagne à 416, c'est montrer avec justesse, nuance et lumière aussi qu'on peut évidemment dépasser ça, qu'on peut prendre confiance en soi, qu'on peut dépasser cette forme d'autocensure, qu'on peut être inspiré par des modèles, et notamment par ce que fait Chemin d'Avenir dans ses campagnes. Et puis c'est de voir naître en effet des destins, mais sans jamais encourager d'ailleurs un départ à tout prix. On admire autant de jeunes collégiens qui font le choix vraiment de rester chez eux, de s'y épanouir, d'avoir envie de rester dans ce terroir, de reprendre une ferme familiale ou en tout cas de s'épanouir sur ces terres où ils ont grandi. Et les deux choix sont à encourager d'ailleurs. Je pense que dans le film de Jean-Thomas, on voit absolument la multiplicité des trajectoires.
Jean-Thomas, vos caméras sont donc allées à leur rencontre, à ces jeunes qui vous parlent. D'abord, est-ce que ça a été facile de les faire parler ?
J'ai coutume de dire que ça a été normalement pas facile, je m'explique. C'est-à-dire que moi, le premier abord soit pas tout de suite, bien sûr, installez-vous, nous allons comme ça à cœur ouvert, je trouve ça plutôt sain. Donc on s'est rencontrés, un documentaire, on prend toujours du temps. Donc je suis allé les voir, eux, leur famille, sans caméra évidemment. On s'est rencontrés, on a échangé, on a appris à faire connaissance, et peu à peu, on a commencé à s'apprivoiser. Et à faire connaissance, et au fur et à mesure du tournage, je pense qu'ils se sont livrés de plus en plus, mais j'aime bien cette idée que ça soit pas, à la limite, quelqu'un qui serait tout de suite bien comme ça.
Ça serait bizarre.
Ça serait bizarre, ça serait pas normal. Et donc il y a cette dimension-là qui, moi, me plaît, me touche dans la manière de travailler. Et puis il y a une autre dimension, c'est que j'ai choisi aussi... Chemin d'Avenir intervient avec des gamins qui sont dans des phases d'orientation, c'est-à-dire soit 4e, 3e, soit 3e terminale. Et moi, j'aime bien... J'aime bien cette période de troisième qui est le premier choix, la première orientation. Sauf qu'en troisième, entre guillemets, on parle moins bien qu'en terminale. Et j'aime aussi ces silences et ces approximations, ces choses qui peuvent changer et qui sont pas comme ça coulées dans le marbre. Et j'aime bien ce côté où on peut un peu prendre le temps d'aller dans les complexités, dans les paradoxes, dans les oui mais non, dans les je suis attaché mais j'ai envie de partir, dans les j'ai changé d'avis, dans les je sais pas, dans les silences. Et moi j'aime bien ce petit côté dilué comme ça.
Dilué, charmant. Et du coup, est-ce qu'ils oublient petit à petit la caméra ?
Vaste débat. Non, j'essaye de me faire le plus petit possible, mais je pense que c'est un vaste débat. Je pense qu'on n'oublie jamais complètement la caméra, mais qu'elle fait partie de la narration et qu'on se l'approprie. Moi, je dis toujours, dans ce genre de film, enfin, dans les films que je fais, et puis typiquement celui-là, je fais pas contre, c'est pas une enquête, il n'y a rien de caché, c'est on le fait ensemble. Chacun s'apprivoise et chacun a envie d'y mettre quelque chose. Eux y compris, et leurs parents, et Chemin d'Avenir, et tout le monde. Donc, elle n'est pas actrice, ça c'est sûr. Elle est très souvent à distance, mais elle est là, mais elle fait partie de ce qu'ils vivent à ce moment-là. Et peut-être même qu'elle est aussi, alors je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que qu'elle formalise, comme peut le faire Chemin d'Avenir, qu'elle amène aussi à réfléchir peut-être encore plus et à se poser encore plus des questions.
Et avec la volonté, et ça ces jeunes en étaient très conscients pour en avoir un peu parlé avec eux, la volonté de ce documentaire, c'est de rendre visible l'invisible. C'est vraiment le sens des actions de Chemin d'Avenir, de ce livre dont parlait Mélissa Thoriot, Les Invisibles de la République, avec mon co-auteur Erki Maillard, on ne l'a pas appelé comme ça pour rien. L'idée, c'est de dire ces jeunes, dans la ruralité, c'est un quart des jeunes français, c'est loin d'être seulement une poignée de fils d'agriculteurs. Il y en a, mais il y en a aussi avec des trajectoires présentes et à venir plus complexes. Et il est important de braquer les projecteurs autant que possible sur eux, leurs défis, leurs complexités, leurs forces et la force qu'ils peuvent représenter pour le pays, pour peu qu'on leur en donne les moyens. Et aujourd'hui, force est de constater que ça n'est pas encore assez le cas.
Est-ce que c'est du coaching que vous faites ?
C'est un accompagnement à 360 degrés autour de ces jeunes pour leur permettre de construire leur parcours académique, professionnel et citoyen, pour leur permettre d'être acteurs de leur avenir, parce que sinon ça n'est pas forcément le cas. Et on le voit d'ailleurs là dans le documentaire, je prends un exemple, Dylan qui rêve d'être écrivain, et qui dans la ruralité n'a pas d'écrivain à côté de chez lui, ses parents ne font pas ça, porte un regard bienveillant mais un peu interrogatif sur ce projet, et grâce à sa marraine Chemin d'Avenir, Gabrielle Légéré, il avance dans l'écriture d'un roman, la possibilité de l'envoyer à des éditeurs, de se confronter peut-être à un échec, mais pour recommencer ensuite. Il précise ses projets, il peut ensuite faire des stages, rencontrer des professionnels, des étudiants qui ont fait des études littéraires ici ou ailleurs. Et c'est grâce à cet accompagnement sur mesure, vraiment, qu'on peut permettre à ces jeunes d'être en mesure de faire des choix.
Mélissa, il y a les parents qui jouent un rôle capital, et c'est très très bien mis en avant dans ce documentaire, par exemple avec le cas de Dylan, qui veut devenir écrivain. Il est passionné de littérature depuis tout petit, et je crois que c'est son père qui dit mais écrivain, c'est pas un métier, quoi.
Oui, c'est ce qui est le plus émouvant d'ailleurs dans le parcours de Dylan, c'est cette forme d'absence de modèle référent, en fait. C'est ça qui est quand même criant. Alors, il y a les modèles, en effet, quand on a envie d'imiter ou de reprendre ce que font les parents, très bien, c'est peut-être le cas de Félix, bien qu'il va continuer de s'interroger et de construire sa trajectoire. Et puis, il y a ceux qui, vraiment, envers et contre des parents qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas cette culture, qui n'ont pas cet accès, qui n'ont pas cet univers, qui lisent peut-être pas de livres, et il y a quand même ce déclencheur, en effet, ce parrainage qui va pouvoir permettre à Dylan d'oser et d'envoyer son livre. Moi, ça m'émeut profondément. Et puis, ça me rappelle la genèse et le livre qui m'a personnellement bouleversée de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux. Et j'avais ça dans le cœur au départ, et je sais que Jean-Thomas aussi, dans l'écriture, et puis aussi dans ce tournage. Et c'est aussi ce que Nicolas Mathieu a très bien décrit dans ce roman et dans ce livre. C'est c'est qu'est-ce qu'on fait aussi avec le poids des parents devant et dans tout ce que eux n'ont pas pu faire, ils n'ont pas pu s'accomplir. Est-ce que nous, on va pouvoir, quoi ? Est-ce qu'on se résigne ou est-ce qu'on y va ?
Jean-Thomas, est-ce que lorsqu'on est de l'autre côté de la caméra comme vous, tout au long de ce documentaire, on est touché aussi par ces gamins ?
Tout le temps.
Tout le temps. Tout le temps. Est-ce que du coup, je ne sais pas si vous êtes intervenu en leur disant « mais vas-y, bats-toi, fais-le ».
Je pense que c'est subliminal, c'est-à-dire que je ne le dis pas parce que ce n'est pas mon rôle et je n'interviens pas. Et d'ailleurs, je n'ai pas voulu mettre un commentaire parce que de la même manière qu'on était porté par l'idée de qu'on est touché par ce côté invisible, inaudible, par définition, nous on a envie de les rendre visibles et audibles, donc moi j'ai rien à dire. Donc non, je n'interviens pas comme ça, mais je suis tout le temps touché et je suis souvent bouleversé par cette petite chose qui a à voir avec le fait d'oser, d'avoir la liberté de choix, quel que soit le choix, mais qu'il n'y ait pas de barrière ou de choses, de choix par défaut, de choix contraints. Après, du moment que tout d'un coup je vois qu'il y a une petite lumière qui s'allume et que tel ou tel, et je pourrais citer plein d'exemples, se dit tiens, peut-être il s'est allumé ce truc-là, ou telle autre chose, que ça soit avocate, agriculteur... Peu importe. Ouais. Mais quand il y a la lumière qui s'allume, ouais, c'est très touchant, bien sûr, surtout à cet âge-là.
On va rester sur ces mots positifs. Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés. Merci. Il faut le voir ce soir, hein. C'est en deuxième partie de soirée sur France 3. Quelle heure exactement ?
22h45.
Voilà, et ça c'est baptisé Ici, tout est loin. Merci de nous avoir accompagnés.
Merci,
il faut le voir absolument.
Merci.
18h50, RTL Soir, la suite dans un instant. C'est la culture de l'actu avec Julia Molcou. À tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir. Avec Stéphane Carpentier.
18h52, c'est donc la culture de l'actu, c'est parti.
Salut Stéphane, bonsoir à tous, ça va très bien.
Alors ce soir, après 7 mois de voyage, le robot Perseverance, envoyé par la NASA, tentera d'atterrir sur Mars. L'occasion pour vous, Julia, de nous parler de l'univers, de la planète rouge dans la culture de l'actu.
Alors si je vous dis que cette chanson des Beatles, Across the Universe, a été diffusée par la NASA dans l'espace en février 2008, est-ce que vous me croyez ?
Oui.
Bah, vous faites bien. Et vous savez quoi ? Yoko Ono, la veuve de John Lennon, avait d'ailleurs salué ce, je cite, « premier pas dans la communication avec les planètes et l'univers ». On ne prend pas tous la même chose. Et parmi ces planètes, il y a donc Mars, évidemment. Et la fascination qu'exerce Mars aussi bien sur les scientifiques, les cinéastes, les musiciens et les auteurs ne date pas d'hier. En 1887, Maupassant publiait déjà une nouvelle, L'homme de Mars, l'histoire d'un homme qui voit entrer chez lui un visiteur un peu fou, mais qui va quand même le convaincre qu'il y a bien de la vie sur Mars. Et il n'y a pas que pour le compositeur Gustav Holst que Mars soit la planète qui apporte la guerre. Pour Herbert George Wells aussi, quand il écrit La guerre des mondes en 1898, l'une des premières œuvres à évoquer la fragilité de notre civilisation menacée d'effondrement par une attaque martienne. Le roman fut adapté de nombreuses fois et au cinéma et à la radio. Et la première fois d'ailleurs, en 1938, par un certain Orson Welles.
Une forme voûtée s'extrait de la fosse. Je parviens à distinguer un faible rayon de lumière sur un miroir. Qu'est-ce que c'est ? Un jet de flamme vient de jaillir du miroir et bondit droit vers les hommes qui s'avançaient. Ils sont frappés de plein fouet. Oh mon Dieu ! Ils viennent de prendre feu.
Oh là là, Stéphane, si ça avait été vous sur les ondes américaines ce jour-là, mais ça aurait créé un mouvement de panique. Malheureusement, Wells était bien moins bon que vous et son canular radiophonique, avec ses faux directs et ses faux journalistes, ne déclencha ni crise cardiaque ni vague de suicide, contrairement à la légende. Pour la simple et bonne raison d'ailleurs que très peu de gens écoutaient la station CBS à l'époque. Et si pendant longtemps Mars était vu comme une terre hostile aux habitants conquistadors, on vient de l'entendre, eh bien depuis des dizaines d'années maintenant, la planète rouge est plutôt perçue comme un Éden qui pourrait peut-être un jour nous accueillir, nous, pauvres terriens. Enregistré en août 71, Life on Mars est l'une des chansons les plus connues de Bowie. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté.
Non.
Une chanson qui parle de son envie d'évasion. Et c'est vrai que Mars, pour changer d'air, c'est bien. Dommage qu'astronaute ne soit pas devenu un métier comme un autre. C'était pourtant le souhait d'Elton John en 72. On such a time, Rocketman, on adore. Alors non, astronaute n'est toujours pas un métier comme un autre. C'est pourtant pas faute d'avoir essayé de créer des vocations, à l'image de Britney Spears, en combinaison très moulante, qui accueillait un gentil cosmonaute sur la planète rouge. Vous avez le droit de danser, Peggy, personne ne le saura.
Vous êtes sûr?
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis Britney.
Je vous rappelle que c'est filmé, hein, j'aime le coup.
Non, c'est vrai, elle a oublié. Avec Thomas Soto, j'aurais été obligée de terminer par du Goldman. Mais grâce à vous, comme vous êtes fan de Britney, j'ai pu terminer par du Britney.
On est up.
Fan.
La culture de l'actu, c'est du lundi au jeudi soir dans RTL Soir. Merci, Julia. Merci.